bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bienvenue et bonsoir. Bienvenue encore une fois dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, protection des journalistes au Sahel, appel urgent des radios communautaires d'Afrique de l'Ouest. Face à l'insécurité croissante dans la région, VOA Afrique a visité deux stations de radio à Kaye au Mali. Burkina Faso, vidéo de la radio-télévision nationale faisant état d'un complot de déstabilisation. Newton Ahmed Barry dément toute implication et dénonce une manœuvre des autorités pour détourner l'attention de la crise. C'est notre fait marquant de la semaine. Le Premier ministre guinéen appelle trois pays membres de l'AES à rester dans la CEDEAO tout en demandant des réformes pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires et politiques. Une ancienne réfugiée burundaise ouvre une usine au Burkina Faso pour produire des farines enrichies en soutien aux enfants vulnérables et déplacés internes. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Le 24 septembre, plus de 500 radios locales d'Afrique de l'Ouest ont appelé à Bamako à la protection des journalistes au Sahel, confrontés à des assassinats, enlèvements et pressions de groupes armés. Dans un contexte de violence croissante et de menaces continues, les radios communautaires du Sahel jouent un rôle vital pour informer les populations locales, souvent dans des zones isolées. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, s'est rendu à Kaye, situé à 580 km de la capitale malienne, pour poursuivre le quotidien des journalistes de deux stations de radio face à des défis sécuritaires. Comment ces médias de proximité continuent-ils à exister et à quel prix? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce reportage. Suivez.
Nichée au cœur du grand marché de Kaye, la radio Bakoy Kaira, émettant depuis 2007, a vu son éclat s'éteindre au fil des années, entraînant dans son sillage une perte significative de son personnel. En plus de ses difficultés économiques croissantes, s'accompagne un défi majeur, celui de maintenir l'exercice d'un journalisme professionnel dans un contexte de crise.
La majorité de la population aujourd'hui commence à prendre une vision unique, c'est-à-dire soutenir quelque chose sans ça tu es apatride, expressément dit ici face au Djougou.
Bien qu'il ne soit pas directement menacé par des terroristes, comme c'est le cas dans certaines parties du pays, le journaliste a été contraint d'interrompre ses émissions pour éviter des représailles.
Aujourd'hui, je peux dire, à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter l'émission parce que je recevais beaucoup de menaces. Souvent, les informations que nous donnons allaient à l'encontre de l'autorité en place et surtout ses supporters. Et ce qui était notre mal, sinon la source de notre mal. Donc je peux dire que même j'ai reçu des appels de menaces, pas seulement des messages, mais des appels de menaces. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter l'émission.
À seulement 4 km de là, la radio Sahel, pionnière des stations privées de la région, fondée en 1997. Cette dernière a adopté une approche plus prudente en ce qui concerne le traitement des informations qualifiées de sensibles.
Bon, nous, on ne traitait pas ces informations-là, sauf si le DIRPA, l'information du DIRPA, nous ne diffusions ça. On traite ça et on ne diffuse pas si ça ne vient pas de DIRPA.
Cette ligne de conduite est strictement respectée au sein de cette rédaction.
On peut travailler librement comme les règles le demandent, mais pas tout dire, puisque comme toutes les autres régions, nous faisons aussi attention et nous agissons aussi en fonction des règles d'éthique et de déontologie aussi.
Bien que confrontés aux difficultés économiques et financières, les radios Bakoy Kaira et Sahel continuent d'avoir un impact majeur au sein de la communauté, comme en témoignent les auditeurs Kadiatouba et Souleymane Dissa.
Moi quand même, ça me rapporte beaucoup des informations, surtout à l'ère des journaux. Si moi je n'écoute pas, vraiment, je suis obligée d'écouter la rediffusion. C'est très très important pour moi. Ça me permet de connaître beaucoup d'informations.
Les radios communautaires aujourd'hui sont des radios qui sont dans nos quotidiens. Voilà, parce qu'ils sont dans nos quotidiens de tous les jours. Et ce sont également des relais pour des radios nationales, voire internationales. Ces radios aujourd'hui font la promotion de nos valeurs culturelles. Ils contribuent également à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.
Les radios Bakoy Kaira et Sahel, bien que distantes, partagent la même mission. Informer, divertir et éduquer. Les journalistes, souvent issus des mêmes communautés qu'ils servent, sont animés par un profond sens du devoir et de la responsabilité. Leur connaissance des réalités locales leur permet de créer des contenus pertinents et de maintenir un lien étroit avec leurs auditeurs, malgré les difficultés au Sahel. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Kay.
Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko de retour d'Okaï. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir.
Alors comment ces journalistes d'Okaï parviennent-ils à gérer le stress, la pression liée à leur métier et leur petite famille?
Et ce n'est pas toujours facile pour eux. Hein. On a entendu dans le reportage, Mamadou Kone, qui est le directeur de la radio Kaira, il a dû arrêter carrément une émission parce qu'il y avait beaucoup de menaces. Et comme Mamadou, il y a beaucoup d'autres journalistes qui font face à des menaces comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus difficile, c'est que ce n'est pas forcément de la part des terroristes, c'est que c'est au sein même de la communauté que vous recevez les messages. Et une ville comme Kaï, où tout le monde se connaît pratiquement, où tous les acteurs sont connus, c'est sûr que ces acteurs-là, ces journalistes-là sont en danger. Et donc,
est-ce que leurs familles sont affectées par ces menaces?
Bien entendu. C'est pourquoi d'ailleurs les journalistes avec lesquels on a parlé estiment que c'est pour eux-mêmes et pour leur famille. Parce que pratiquement, comme je l'ai dit, Kaï, on se connaît tous, tout le monde se connaît. Et donc ce n'est pas trop évident. Donc les menaces font que les journalistes aujourd'hui peuvent être amenés à arrêter des émissions carrément.
Quel est le sentiment général parmi ces journalistes concernant leur avenir dans le métier et comment envisagent-ils leur rôle dans le paysage médiatique en constante évolution du Sahel?
Certes, il y a la crise, mais c'est les journalistes qui veulent rester journalistes. Ils le sont depuis longtemps, bien avant la crise, et ce n'est pas pendant la crise qu'ils vont arrêter, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont continuer à servir, et les auditeurs, on a entendu, les auditeurs en tout cas attendent de ces journalistes qui leur fournissent des informations, qui sont capitales pour elles et pour eux, et ces journalistes font ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, face à certaines informations jugées sensibles, il y a comme une forme d'autocensure qui ne dit pas son nom parce que il n'y a pas un recoupement complet de l'information. Et comme on l'a dit, c'est des journalistes aussi qui se sentent quelque part menacés. Et donc, ça fait que le travail journalistique se trouve quelque part entaché, en pâtie de cette forme de violence ou même de menace qui peut planer sur la tête de ces hommes de médias.
Mohamed Danyoko, notre correspondant à Bamako, de retour d'Okaï. Merci beaucoup Mohamed pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs sur notre plateforme Facebook. Calix Caboré, il dit ceci, il n'y a pas de place pour des éléments neutres en temps de guerre. Les journalistes qui s'opposent à la nouvelle dynamique de l'AES seront considérés comme nos ennemis. Nous ne rigolons plus, inventez tous les mensonges que vous voulez. Notre soutien aux autorités de l'AES est indéfectible. Sidiki Sawadogo, il dit ceci, je cite, « Nous qui vivons l'insécurité depuis près de 10 ans, pouvons affirmer sans hésitation que certaines radios ont contribué à aggraver la situation. Les journalistes, sous prétexte de liberté d'expression, ont diffusé des informations nuisibles aux populations. Bien que toutes les radios ne soient pas coupables, la désinformation a contribué à la désunion. Des règles strictes et des sanctions pour les journalistes complices sont nécessaires. » Nous poursuivons la discussion avec Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières RSF. En sigle, Sadibou, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde.
Un bref commentaire sur les deux points de vue exprimés par nos auditeurs, des journalistes qui sont perçus comme des ennemis.
Oui, fondamentalement, souvent cela, on a au plus près du terrain, ce sont des sentiments que nous avons pu recueillir également sur le terrain, des citoyens lambda ou bien en tout cas des observateurs, parce qu'ils sont simplement soit alliés ou ils sont acquis à la cause des autorités militaires. Souvent, estiment que les médias sont pratiquement des ennemis, des amplificateurs, en tout cas de ce que eux-mêmes ils pourraient considérer comme une sorte de, disons, de désinformation, ce qui n'est pas fondamentalement le cas. Mais ce qu'il est important de retenir dans le contexte sahélien et quand on parle de radio communautaire, c'est que les auditeurs eux-mêmes l'ont dit, effectivement, les acteurs au plus près du terrain qui sont les journalistes l'ont dit, que ces radios communautaires sont partie prenante du dynamisme de la liberté de la presse dans le Sahel d'une manière générale, et ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle crucial pour informer et sensibiliser. Et c'est cela qu'il faut fondamentalement retenir, malgré un peu les postures politiques du moment dans les trois pays concernés du Sahel central, que sont le Mali, le Burkina et le Niger.
Comment les médias peuvent-ils garantir l'équilibre et la vérification des faits dans un environnement aussi chaotique et dangereux?
Il faut d'abord saluer la résilience des médias et des journalistes locaux dans tout le Sahel. Malgré la situation difficile, ils s'efforcent à informer vrai, tout en étant résilients, en essayant de rester au plus près des faits. Et ces faits, souvent, ce peuvent être des faits de type, local. Ça peut également être des faits de type sécuritaire aussi. Bon, mais ce que nous constatons aussi également, c'est qu'il y a aussi des menaces souvent qui peuvent venir des populations, comme le reportage où Danyoko l'a expliqué, mais également des bandes armées souvent, mais aussi les velléités de contrôle de l'information qui peuvent surgir, comme on le voit souvent avec l'auditeur qui a parlé de, disons, en fait, la personne qui a été interviewée qui a parlé de DIRPA, et DIRPA dans nos pays, ça renvoie un peu à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Et on a l'impression que souvent, il y a des velléités de contrôle de l'information à sens unique qui viennent simplement un peu de ces directions-là, alors que les journalistes eux-mêmes, ils doivent avoir la possibilité d'aller couvrir de manière indépendante, mais d'aller également traiter de l'information de manière indépendante et de la diffuser de manière indépendante. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, parce qu'il y a souvent la situation sécuritaire et ça pousse au fait que certains sujets deviennent fondamentalement tabous. On l'a vu dans un pays comme le Tchad où, par exemple, ça peut devenir de plus en plus difficile pour des médias communautaires de couvrir des affrontements très récurrents entre éleveurs et cultivateurs, parce que il y a des représailles, effectivement. Il y a même un journaliste en mars qui a été tué, et sa famille aussi, son épouse et son fils. Ce sont ces choses qu'on voit au plus près du terrain, effectivement.
Sadibou, vous avez suivi ce commentaire d'un auditeur qui dit: les journalistes qui s'opposent à la nouvelle dynamique de l'AES seront considérés comme nos ennemis. Est-ce qu'un journaliste doit s'aligner derrière un gouvernement ou un groupe quelconque? Quelles initiatives envisagez-vous pour sensibiliser le public et les gouvernements sur l'importance et le rôle de la presse locale dans la lutte contre la désinformation?
Il est important que le monde soit informé de l'importance de l'information, parce que pour lutter contre la désinformation, il faut de l'information. Et cette information-là, généralement, ça va être une information équilibrée, une information qui donne la parole à toutes les voix concernées, notamment y compris les voix dissidentes. Malheureusement, ce qu'on voit émerger dans le Sahel, notamment en rapport avec les soutiens des autorités militaires, ces soutiens-là, ils militent généralement en faveur d'un contrôle très serré de l'information et d'une information à sens unique. Et cela n'est pas possible pour le monde des médias, pour le journalisme d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes qui s'évertuent ou qui s'efforcent à rester journalistes en donnant la parole à tout le monde, et souvent sont perçus, comme il l'a dit, c'est son expression, comme des ennemis. Or, ils ne le sont pas fondamentalement. Ils sont simplement des transmetteurs de l'information et des acteurs importants personnes, dans le dynamisme de la liberté de la presse et dans la vie de nos nations, effectivement, que ce soit en utilisant les langues Songhai, Tamachek, Aoussa ou Bamana, mais ce sont des gens extrêmement importants qui font un service public utile et un service public bénéfique à la population d'une manière générale. Et en tant que tel, ils doivent être respectés.
Il nous reste quelques secondes, Sadibou. Quelles mesures concrètes peuvent être mises en place pour assurer la sécurité des journalistes et renforcer la liberté de la presse au Sahel dans ce contexte d'insécurité croissante? Et qu'attendez-vous des autorités des pays sahéliens?
Ce que nous avons vu maintenant en termes de bilan sécuritaire, on a vu par exemple que rien qu'au Mali, exactement à ce jour, il y a 4 journalistes portés disparus, un journaliste tué et un journaliste de radio communautaire tué un peu généralement dans la zone nord. Au Burkina Faso, par exemple, on a actuellement 4 journalistes portés disparus. Donc ça fait un bilan assez difficile. Et je vous épargne un peu de la situation au Niger telle qu'on l'a vu avec un peu les mesures coercitives, notamment en lien avec un peu un certain nombre de lois liberticides. Mais ce qu'il est important de noter, et c'est ça que c'est à cela que nous appelons la communauté internationale, que la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes et des radios communautaires et de la presse traditionnelle d'une manière générale doit être renforcée avec l'ouverture des systématiques, des enquêtes, parce qu'il faut que les autorités locales dans le Sahel fassent savoir au monde qu'il y a au moins une volonté politique de lutter contre ces crimes commis contre les journalistes. Maintenant, il y a aussi des journalistes qui sont toujours portés disparus, mais il faut les libérer, il faut développer des stratégies de négociation avec leurs kidnappeurs pour les libérer. Maintenant aussi, il y a le bilan en termes matériels de beaucoup de radios qui ont été détruites. Ces radios font, comme je l'ai dit, un service public utile aux populations devrait pouvoir être reconstruit parce que simplement elles ont été attaquées par soit des bandes armées ou bien même par des militaires.
Merci beaucoup, Marong. Ont fait ça. Malheureusement, on n'a plus de temps pour approfondir davantage la question. Je vous remercie beaucoup de votre expertise. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba exhorte les pays de l'AES à ne pas se détourner de la CEDEAO malgré ses faiblesses et à travailler pour des réformes internes. Il insiste sur l'importance de la coopération régionale pour la sécurité et le développement, soulignant l'interdépendance des États africains. Amadou Ouriba répondait aux questions de Nathalie Barge en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Suivez.
Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique étaient nous jalousées. Donc, pour des intérêts conjoncturels certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO. Elle a des faiblesses. En tant que Guinéens, nous avons eu des récriminations à son égard, mais nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous restons et nous voulons que la CEDEAO se réforme à l'intérieur, soit plus en phase avec les écoutes, les besoins, les problématiques nouvelles. Pour les questions de sécurité, bien avant cette période, nous avions remarqué, insisté sur l'inefficacité ou le retrait pour des raisons qui lui sont propres de la CEDEAO dans la recherche des voies et moyens de la stabilisation du Sahel au profit du G5 qui a été mis en place par les pays d'alors. Et donc, en ne prenant pas en compte la dimension sécuritaire lorsque la situation était devenue périlleuse au Sahel, ça a ouvert la voie à des, disons, à une certaine culture comme quoi la CEDEAO se désintéresse des pays, de certains pays. Or, nous devons ramener tout le monde dans la famille. Nous devons prendre en compte les spécificités concernant chaque État, mais ce qui est fondamental, dans l'approche actuelle, il faudrait que les États interdépendants, parce que nous ne sommes pas en sécurité lorsque les pays voisins ne le sont pas. Nous sommes tous co-responsables et c'est la dynamique actuelle que la Guinée va mettre en place pour tenter de convaincre les uns et les autres. Nous avons certes des divergences, mais faisons vivre nos divergences dans une logique constructive et non pas dans une logique destructrice. Et en plus, nous ne devons pas aller dans une internationalisation des conflits qui nous sont spécifiques. Il y a des lacunes, il y a des insuffisances, il y a des réformes dans chaque État. Prenons le courage entre nos deux mains, changeons de paradigme et par ce biais-là, ça contribuera à restaurer la paix, la stabilité, le vivre ensemble et la cohésion entre des peuples qui, depuis des siècles et des siècles, vivent en communauté.
Un Premier ministre de la Guinée. Une vidéo. Une vidéo diffusée par la radio-télévision nationale au Burkina accuse plusieurs personnalités de complot contre le Burkina Faso. Mais les accusés nient les faits, dénonçant une tentative de diversion par les autorités militaires. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Moussa Sawadogo, chroniqueur de débat et formateur en journalisme. Moussa, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs.
Comment les médias burkinabés ont-ils couvert la diffusion de cette vidéo et quelle a été leur approche pour vérifier son authenticité des déclarations de l'homme se présentant comme le commandant Ahmed Kinda?
C'est vrai que les Burkinabés dans leur ensemble ont été un peu secoués quand le ministre Sana, en charge de la sécurité intérieure, a fait cas d'une énième tentative de coup d'État. Ça a beaucoup bouleversé, ça a choqué les gens, surtout que cela est intervenu après une attaque monstrueuse, vraiment un massacre dans la région de Barsalgo, dans le centre-nord. Le ministre, dans son allocution parlant de tentative de déstabilisation du pouvoir, avait fait la promesse de donner des preuves parce qu'il avait cité un certain nombre de personnes. Et là, on a effectivement vu dans une vidéo diffusée par la télévision nationale le présumé chef de file de ce push raté là, le Kinda, tenir des propos où il reconnaît tout ce qui lui est reproché, quasiment. Mais il faut dire que par rapport à ça, les médias burkinabés n'ont rien dit de concret parce que on a juste constaté des comptes rendus pour juste dire que la vidéo a circulé et qu'on a vu les accusés faire parler de ce coup d'État, mais aucun média burkinabé n'a fait une analyse. Aucun média burkinabé n'a cherché à vérifier l'authenticité de cette vidéo-là pour la simple raison que dans la situation actuelle, je ne pense pas qu'un journaliste burkinabé aura le courage d'aller contre le discours officiel. Du reste, les débats autour de cette vidéo c'est plutôt sur les réseaux sociaux.
Vous êtes formateur en journalisme. Dans le traitement de ce type de sujet, comment garantir un équilibre entre le respect de la liberté de la presse et la protection de l'intégrité des personnes accusées, surtout dans un contexte aussi étendu? Il nous reste 30 secondes, malheureusement.
Oui, mais je pense que c'est difficile parce que dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé fonctionne selon une stratégie de communication de guerre. Et dans cette stratégie de communication de guerre, il est évident que le discours officiel est la vérité. Donc pour le gouvernement, il n'y a pas de vérité en dehors du discours officiel. Et vous verrez qu'aucun journaliste n'ose aller contre ça, parce que tous les journalistes qui essaient de porter la contradiction ou de dire quelque chose de contraire font l'objet de menaces, d'enrôlement, et je pense que ça crée une situation de peur où les journalistes font ce que le gouvernement dit, les accompagner et non remettre en cause le discours officiel, malheureusement.
Moussa Sawadogo, chroniqueur de débat et formateur en journalisme, merci beaucoup pour votre expertise. Nous restons au Burkina Faso, où une ancienne réfugiée burundaise vivant au Burkina depuis près de 25 ans a fondé une usine spécialisée dans la production de farine enrichie. Cette initiative vise à soutenir les enfants en situation nutritionnelle précaire, en particulier les déplacés internes. La VOA a rencontré Inge Iteka, c'est son nom, pour explorer son parcours et son engagement. Ce reportage est réalisé par Gilles Dasta.
À plein régime, ces moulins industriels produisent de la farine enrichie pour enfants. Il faut tout un processus pour obtenir le produit fini dans cette usine dénommée MTA, moulin de transformation agricole. Un produit à base de maïs, petit mil, soja, destiné prioritairement à une catégorie de personnes selon Inge Iteka, promotrice de l'usine.
Les produits finis sont destinés aux personnes vulnérables, aussi aux enfants, pour une bonne croissance. Ça veut dire à partir de plus de 6 mois, on peut consommer la farine. C'est une farine instantanée.
Ayant fui son pays d'origine, le Burundi, Inge Iteka s'est réfugiée au Burkina il y a 25 ans. Elle va d'abord ouvrir une agence de voyage qui va fermer du fait du Covid. De là, naît une autre idée.
Et pour ne pas renvoyer les employés, on a commencé à produire à la maison. Donc la salle de billetterie, on l'a transformée en salle de production et on a pu s'y porter pendant 6 mois.
Au fil des ans et au regard de la situation humanitaire du Burkina dont elle a depuis acquis la nationalité, Inge Iteka décide de passer à une échelle de production plus grande et aider à la prise en charge d'enfants déplacés internes en situation nutritionnelle difficile. De cette usine inaugurée récemment vont sortir 12 tonnes de farine enrichie par jour et respectant les normes requises, comme nous le dit Samiratou Bonkungu, responsable qualité de l'usine.
Nous respectons les bonnes pratiques d'hygiène et de production. Après production, nos farines aussi, nous allons faire des analyses physico-chimiques et des analyses microbiologiques. Avec ces résultats, nous pouvons confirmer que nos farines sont de qualité.
Selon la promotrice de l'usine, les farines sont faites à base de produits locaux.
Nous utilisons la matière première locale. Et ce qui permet un développement de la zone rurale, mais aussi nous travaillons avec les associations de femmes et de jeunes.
Un impact sur la communauté dont se réjouit Agiratou Soré, représentante du président de la délégation spéciale de l'arrondissement où l'unité de production est installée.
En plus des emplois locaux qui vont être créés, elle soutiendra l'économie et offrira des solutions en matière de nutrition qualitative pour les enfants. Nous célébrons également la force collective de notre communauté.
Près de 500 groupements, associations et autres organisations paysannes assurent la fourniture de l'usine inaugurée il y a peu en présence du ministre de l'Agriculture, dont le département a aussi appuyé l'initiative. Avec cette structure, Inge Iteka espère contribuer à une meilleure situation nutritionnelle des enfants déplacés internes et de ceux des familles démunies. Pour elle, cela est un engagement. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans son voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakiza était au micro avec vous. Joselle Morissin et Trésor Matondo ont assuré la réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté et suivi Focus Sahel. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.